Hello and welcome to La Crème Anglaise, le podcast où nous dégustons des spécialités britanniques et leur histoire dans mon salon de thé. Je suis Sarah Le Sage et ravie de vous avoir avec nous. Aujourd'hui, c'est plutôt une ambiance de pub parce que nous allons parler de la bière anglaise avec Emmeline, qui a grandi entre la Bretagne et le Royaume-Uni avant de s'installer avec Adam en Normandie. Donc, pas pinky up cette fois-ci, mais cheers and bottoms up! Qui n'associe pas les pubs et les bières avec la Grande-Bretagne? La consommation de bière date depuis la sédentarisation de l'homme avec la culture des céréales et la fabrication de pain et de la bière qui est le résultat des céréales germées. En Grande-Bretagne, le climat étant trop rude pour le raisin, et donc la bière a toujours été la boisson de prédilection bu à tous les repas, même le petit déjeuner. C'est une boisson très nourrissante quand il n'y avait pas grand-chose à manger et on le buvait aussi parce que dans les villes, l'eau n'était pas potable. Bien que la bière fût considérée dans le XXe siècle comme une boisson pour les hommes, c'est en fait les femmes qui étaient la première brasseuse et qui fabriquaient leur bière à la maison. Dès que c'était prêt, elles accrochaient leur baguette de brasseuse dehors pour permettre à leurs voisins de venir en acheter. Les bières étant aromatisées par un mélange d'herbes, parfois avec des qualités psychotropes, on peut imaginer donc que certaines de ces bières étaient le soi-disant potion des sorcières. Donc je suis très heureuse aujourd'hui d'accueillir une brasseuse franco-britannique de la brasserie artisanale Mobsby's qui se trouve près de Vire en Normandie. Alors, Emmeline n'est certainement pas une sorcière, mais elle connaît à la fois la bière française et anglaise. Merci, Emmeline, d'avoir accepté mon invitation et bienvenue à la crème anglaise.
Merci à vous de m'avoir invitée, Sarah.
Donc, Emmeline, je crois que c'est ton beau-père Steve Mobsy qui a créé cette brasserie en 2008. Comment, toi, tu t'es arrivée dans cette aventure?
Alors, Steve a démarré la brasserie en 2008 et puis, bon, ben, mon mari est arrivé, enfin, en 2018, il a repris la brasserie. Moi, je suis arrivée quelques années plus tard, donc juste avant le Covid.
Ah, d'accord. Et je crois que dans ta famille, tu avais aussi des grands-parents qui travaillaient dans une brasserie?
C'est totalement une coïncidence que mon grand-père était l'un des directeurs de Boddington's en Angleterre.
Et ça se trouve où?
Boddington, c'est à Manchester, où ils sont basés. C'était une énorme brasserie dans les années 80.
D'accord, donc on peut dire que tu as vraiment baigné un peu dans le monde de la bière.
Voilà, oui.
Et Adam, sa famille était aussi brasseur en Angleterre avant de se lancer dans la bière en France?
Pas brasseur, mais Steve travaillait pour Adnams, donc voilà.
Une des plus grandes brasseurs industrielles en Angleterre. Ok. Alors, je crois que la recette de base de la bière est assez simple. Quels sont les ingrédients qu'il faut pour une bière?
Alors, il vous faut du malt, de la levure, du houblon.
Et le malt, c'est quoi en fait?
Du malt, c'est de l'orge. Qui a été, sous certaines conditions, il a un peu germé. Donc ça, c'est tout un autre système. C'est très intéressant d'aller voir les malteries, d'ailleurs. mais voilà, donc le malt, c'est un produit qui vient de germer, qui est mis dans un sac. Donc vous pouvez trouver le malt pour faire de la bière soit concassé, soit pas. Il y a beaucoup de brasseries artisanales qui concassent leur propre malt en France.
Et avec ces ingrédients de base, en fait, en France pareil, mais en Angleterre, la variété de bière peut rendre très difficile le choix et même la compréhension. Alors jusqu'en 15e siècle, on brassait ce qu'on appelait le ale, c'est-à-dire une bière sans houblon. C'était cette mélange d'orge germée et on mettait ces fameuses herbes pour l'aromatiser. Alors, le houblon est arrivé des Pays-Bas et d'aujourd'hui la Belgique pendant le 15e siècle et à partir de ce moment-là, on l'appelait ça plutôt la bière. Mais aujourd'hui, on parle surtout de ale de nouveau, qui contient évidemment le houblon et aussi il y a beaucoup de notions différentes de marketing. Mais quand tu rentres dans un pub aujourd'hui en Angleterre, tu es confronté avec un choix énorme dont les mots bitter, le mild, le porter, le stout, sans parler de toutes les bières qui viennent du continent, les pils, les lagers. C'est vraiment très très important. Et puis on arrive à les bières artisanales comme vous le faites vous. Donc vous brassez plusieurs types de bières. Quelles sont les bières que vous faites aujourd'hui?
Alors, nous avons donc la blonde, l'ambrée, nous avons une blonde au miel et nous avons la stout. Donc, celles-ci sont nos principales bières.
D'accord. Et si on commence par le stout, parce que ça, c'est un nom qu'on va trouver souvent en Angleterre. C'est quoi un stout? Ou c'est quoi le
Un
vôtre?
stout, le nôtre consiste en trois malts différents. Donc, nous avons le malt de base qui est le pale, un malt qui a une torréfaction moyenne et puis un malt qui est torréfié, il est noir presque.
Et c'est ça qui va donner cette couleur très foncée, très brune.
Exact.
Les Français vont certainement connaître le Guinness. Donc, je sais, ce n'est pas un Guinness, mais voilà, ça, c'est un stout peut-être le plus connu. Donc, c'est une bière plutôt qu'on boit tiède, comme en Angleterre, ou frais?
Alors, ça dépend du pays. Les Français aiment plutôt qu'elle soit fraîche et les Anglais préfèrent plutôt qu'elle soit tiède. Mais quand on boit une Guinness, en général, elle est très fraîche. Je pense que c'est la marque. Quand on va dans un pub, on voit bien que la poignée est dégouline d'humidité. C'est leur point de vente, en gros, la bière fraîche, mousseuse. Mais notre stout à nous, on préfère conseiller qu'elle soit tiède, pas fraîche, parce que là, on perd rien qu'à sentir la bière elle-même, on perd les notes.
Comme un peu le vin si on le boit trop frais.
Voilà.
D'accord. Et vous avez une bière ambrée aussi.
Voilà, oui.
Et ça va être quoi la différence entre le stout, c'est la torréfaction du malt ou...
Alors là aussi, c'est deux malts à la place de trois pour la stout et puis un type de malt pour la blonde. Donc la cordiale, notre ambrée, consiste de deux malts, la pale et l'ambre qui est moyennement torréfiée.
D'accord. Et vous avez aussi, je crois, une bière blonde qui s'appelle le Coq. Et ça va ressembler un peu à une bière française, une blonde typiquement française.
Plutôt oui, mais je dois dire qu'elle est un petit peu plus ronde dans la bouche parce que le malt qu'on utilise, c'est du Maraisorter. Donc ça, c'est importé directement de l'Angleterre. On a l'impression que le Maraisorter, c'est protégé. On ne peut pas trouver de malteries en France qui font pousser du Maraisorter.
Et c'est dans quel coin d'Angleterre, ça?
On trouve... Enfin, je crois qu'il y a trois malteries en Angleterre principalement qui font pousser que du Maraisorter.
Et le houblon aussi, ça vient de l'Angleterre?
L'Angleterre, oui, c'est parce que quand Steve a débuté la brasserie, il lui connaissait, ses contacts étaient qu'en Angleterre. Et puis ben maintenant, pour que la bière soit consistante et reste la même, on a toujours un recours à l'Angleterre pour ce houblon spécifique.
D'accord. Et donc ça, c'est, tu disais tout à l'heure quand on parlait, ça c'est la principale différence entre vos bières et une bière française, c'est que les ingrédients viennent d'Angleterre.
Exact.
Et comment les Français apprécient vos bières?
Je dirais qu'ils adorent. Non, je rigole. Bon, chacun ses goûts et puis ses habitudes, disons. Donc, si, c'est ce qu'on essaye de faire, en fait. La bière artisanale, c'est un phénomène assez récent. Donc, on a toute cette ancienne génération qui a besoin d'être persuadée à goûter les bières artisanales. Donc, ça vient doucement. Ils apprécient. On a notre petit following sur Saint-Germain, là où on habite, des gens du village qui viennent directement à la brasserie acheter.
Et sinon, on peut le trouver où?
On est plutôt local sur Vire, donc on a plusieurs points de vente, on a même l'Andouille. l'andouille à Slow, qui vend nos bières dans sa petite boutique. Les tripes viroises, dans leur petite boutique, aussi vendent nos bières. Parce que j'ai l'impression que récemment, depuis le Covid, tout le monde essaye de soutenir les produits locaux, les artisans locaux. Donc ça, c'est vraiment... Enfin, nous, on apprécie beaucoup. Parce que dans le passé, ça, c'était pas vraiment le cas. J'ai l'impression qu'il y avait quand même un petit sur les Anglais. Là, voilà, parce
Surtout
qu'on
avec le
était.
Brexit.
Voilà, oui.
Et depuis, d'abord le jubilé et puis le décès, les obsèques de la reine, est-ce que vous avez remarqué que ça a un impact sur le ventre de votre marque?
Pas
Parce qu'il y
trop,
a le
non.
petit, il y a le petit Union Jack sur les capsules.
Oui, voilà, oui. Bah, je ne sais pas si ça a augmenté les ventes, mais en tout cas, on nous apprécie un petit peu plus, peut-être. Je ne sais pas.
Et vous avez
Aucune idée.
trinqué certainement une petite bière au moment de ses obsèques.
Oui, on a même un post sur les réseaux sociaux, oui.
Alors, pour revenir à votre blonde, le coq, on a trouvé une recette pour une bière qui s'appelait The Cock Ale dans le XVIIe siècle d'un certain Kenelm Digby, qui est un philosophe, astrologue et intellectuel de l'Église catholique anglaise. Et le cock ale était un alcool fait de bière et d'une carcasse ou de la viande d'un coq. Parce qu'en fait, il paraît qu'à l'époque, on jetait n'importe quoi dans la bière. Enfin, c'était un peu la soupe de tous les jours. Et donc, il y a cette recette avec la carcasse d'un coq qu'on associe à l'époque avec la vigueur et la puissance masculine. Et ensuite, j'ai trouvé dans un tract célèbre qui s'appelle La pétition des femmes contre le café, qui est, et je cite, une humble pétition et adresse de plusieurs milliers de bonnes femmes plantureuses, languissantes dans des besoins extrêmes. Alors c'est un document très étonnant des femmes qui regrettaient qu'avec la consommation de café qui venait d'être introduit en Grande-Bretagne, les hommes étaient en train d'être francisés et de devenir des moineaux à la place des coqs virils. Et donc les femmes demandaient que le café soit interdit et que les hommes reviennent à boire le cock ale et une autre bière qui s'appelait the lusty nappy beer, que je dois dire comme la bière de couche vigoureuse. Et voilà, alors je ne sais pas, mais peut-être ça explique pourquoi autant de pubs, ils ont le cock dans leur enseigne pour cette côté viril. Est-ce que on peut considérer que votre bière, le cock, a des qualités aphrodisiaques?
sais pas, peut-être qu'il y a quelque chose dans le houblon, mais j'ai jamais entendu dire que c'était un aphrodisiaque, c'est marrant. Mais enfin bon, dans le graphisme de notre le coq, on voulait pas vraiment insinuer ça. C'est plutôt le coq qui est le symbole de la France. Bah, par ailleurs, toutes nos étiquettes sont un petit peu dirigées vers l'entente que l'on a avec la France et l'Angleterre.
Oui, d'ailleurs, il y a une bière qui s'appelle l'entente, si je ne me trompe pas.
La cordiale,
La
donc c'est
cordiale,
plutôt,
pardon,
oui,
oui.
l'entente cordiale, oui.
Voilà. Ah, ben, c'est super. Alors, aussi dans l'histoire, la bière a été la force derrière la révolution industrielle, selon une spécialiste britannique de la bière, Pete Brown. Parce qu'avec des quantités énormes nécessaires pour la nation et l'industrialisation des procédés, le brassage, on va utiliser par exemple la vapeur. Le microscope et les hydromètres. Et les pubs sont nés d'abord dans les maisons de ces femmes qui brassaient leur bière. Ils avaient une pièce tout simplement dans la maison pour accueillir des gens qui venaient en acheter ou en boire. Et ensuite, il y a les maisons publiques ou les pubs où les bières en fût de haute fermentation étaient finies dans la cave du pub plutôt que dans les brasseries.
Oui.
Alors, au début du XXe siècle, les grandes brasseries industrielles, telles que Adams et Whitbread's ou Fuller's, peut-être les noms les plus connus, ils étaient propriétaires ou très étroitement liés avec les pubs. Et cette bière en fût se gardait beaucoup mieux qu'en bouteille. Et en 1970, j'ai lu que ça représentait 90% des bières consommées. Mais alors depuis, ça a beaucoup changé avec l'intérêt des bières export Et de plus en plus aujourd'hui, on vient vers des bières artisanales et des bières locales. Et je crois que toi, tu as travaillé comme moi dans des pubs en Grande-Bretagne. Comment tu expliques cette culture de pub en Grande-Bretagne et la différence avec les bars en France?
Moi, je travaillais pour le Working Men's Institute au-dessus de Wigan, dans le nord.
Ça, c'est quoi, les instituts des hommes travailleurs?
Voilà, oui. Donc, il fallait être membre déjà pour rentrer. Donc, on avait comme particularité, on vendait la Sixtons. Donc, ça, c'est un cask ale. Qui n'est pas gazeux du tout, c'est à pression. Donc avec mon bras, je poussais, je tirais pour faire sortir la bière et en créer le gaz aussi. C'est
ah oui.
Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Est-ce que
si,
c'est
tout
clair?
À fait, tout à fait. Donc ça, ouais. C'est une bière en fût et avec ouais. L'action de la pompe, c'est toi en quelque sorte qui gazifie, enfin qui crée
voilà.
le gaz.
Ça s'appelle du cask ale et ça devient de plus en plus rare parce que d'après ce que je sache, ces casques, une fois ouverts, hein, ils ont 48 heures avant qu'ils oxydisent, donc la bière n'est plus bonne. Donc 48 heures pour que le casque soit bu.
Oui, mais en même
gros.
Temps, avec ce qu'on boit en Angleterre, c'est vite.
Oui, donc la culture, la différence en culture, je dirais que c'est plutôt la façon de consommer. Donc l'anglais boira une pint, tandis que le français boira plutôt une petite bière 33 pour goûter, dans un verre aussi. Moi, j'ai juste une vision d'une lef. C'est un très beau verre. Et puis, on déguste plutôt que de consommer ça en quantité.
Oui, c'est ça. Et en plus, moi, je suis un peu plus âgée que toi. Mais à l'époque, moi, j'allais au pub. Il y avait le choix des trois bières pour les hommes. Et alors, les femmes, il y avait peut-être un maudit vin blanc horrible, certainement un peu tiède, et sinon le gin tonic. Voilà, ouais. C'était à peu près tout ce qu'on trouvait. Et je trouve qu'il y a une grande différence maintenant. Il y a des femmes qui boivent des bières et il y a des bons vins aussi dans les pubs.
Ouais, ouais. Non, vous avez raison là-dessus. Je pense que peut-être que le shandy, à une époque, a fait la différence.
Ah oui, c'est ça. Le shandy, c'est la bière mélangée avec de la limonade,
voilà.
Panachée en fait, comme on appelle.
Et puis
France.
Après ça, il y a eu lager top, donc c'est un tout petit peu de limonade par-dessus. En gros, on buvait, c'était presque une pint avec un tout petit peu de limonade. Et ensuite, la personne qui avait commencé à avoir le goût pour la bière commandait une pint.
Ouais, c'est ça. Et puis. Autrefois, on n'avait pas les horaires d'ouverture comme maintenant. Les pubs, c'était très réduit en heures. Donc, le pub, il s'ouvrait à, je sais pas, 18 heures et ça fermait à 11 heures. Et juste avant, il y avait une cloche qui sonnait.
Oui.
Et j'ai des souvenirs que tout le monde qui se précipitait vers le bar
oui.
pour acheter 3 pints, parce qu'ils n'allaient certainement pas quitter le pub à ce moment-là, mais « last orders », ça voulait dire qu'il fallait commander. Et vraiment, ils commandaient beaucoup pour rester encore une heure dans le pub.
Et ils commandaient aussi les rounds. Enfin, quand on achète en groupe, je n'ai jamais connu ça en France. C'était plutôt en Angleterre. Corrigez-moi si c'est faux. Mais oui, « last orders » et les rounds, c'était très busy à la fin de la soirée.
Oui, et le rounds, donc, c'est quand une personne commande pour tout son groupe et chacun son tour de rôle.
Voilà.
Donc, si vous êtes une dizaine, normalement, tu dois boire 10 pints dans la soirée. Donc, effectivement, ça poussait beaucoup à la consommation. Alors, il ne faut pas oublier un produit anglais magnifique issu de la levure de la bière qui est né à Burton-on-Trent, le célèbre pâte à tartiner The Marmite. Tu aimes le Marmite, Emeline?
Moi, j'en suis une qui n'aime pas du tout.
Non, mais c'est ça, le slogan. Soit tu l'aimes, soit tu le détestes.
Oui.
Donc, tu ne peux pas élever tes enfants à la Marmite, alors.
Non, non. Et puis, il y a une façon spécifique. Chaque personne a sa manière de le consommer. Alors, il y en a qui font « Mais il faut qu'en mettre un tout petit peu et tu vas aimer, je te le promets. » Et il y en a qui disent « Mais non, mais il faut bien, bien tartiner ça. »
Ben écoute, il y a un épisode sur le Marmite, sur ce podcast. Vous pouvez trouver ça sur le site. Et il ne faut pas oublier aussi qu'on a plein de recettes en cuisine, beaucoup avec la bière en Grande-Bretagne, comme le steak and ale pie, donc une tourte à la base de bœuf et de bière, mais aussi the Welsh rabbit, c'est un peu notre croque-monsieur avec un mélange de bière et fromage. Et pareil, on peut trouver ces recettes sur le site de la crème anglaise. Et maintenant, Emeline, on arrive au moment de faux pas. Un moment, bon, c'est compliqué parce que toi, tu parles parfaitement anglais et français. Donc, je ne sais pas si tu as une petite histoire à nous raconter autour de la bière ou la langue franco-anglaise.
Moi, c'est les faux pas. Je vais plutôt expliquer pour mon mari. Et enfin, entre nous deux, bon, vous savez très bien que les Français sont assez moqueurs. Hein. Et mon mari, parfois, je sais pas, fait des choses comme il souhaite manger un pain au chocolat à 20h comme dessert. Ça se fait pas.
Ah ouais.
Ou alors une galette des rois, voudrait la partager à deux, mais j'ai beau lui expliquer que c'est un jeu et que c'est une fois par an.
Là, c'est énorme. Parce qu'il faut expliquer que ton mari, ça fait combien de temps qu'il est en France?
C'est depuis 2017.
Voilà. Et en fait, il parle français, mais pas aussi bien que toi, tu parles anglais.
Non, mais aussi, c'est de lui expliquer les traditions. C'est, oui, quand on apprend une langue, effectivement, on apprend tout ce qui fait partie de la culture. Mais les traditions ne sont pas forcément communiquées. Donc, moi, je lui rigole un petit peu au nez. Mais bon.
Mais c'est vrai que la cuisine est très codifiée en France. Hein.
Oui.
Il y a des règles bien précises.
Oui.
On ne mangeait pas entre les repas autrefois. Bon, ça vient un petit peu maintenant. Mais c'est vrai que peut-être en Angleterre, on est moins strict. Et donc, je peux imaginer qu'un Français peut être choqué par notre manière.
Je pense qu'il joue là-dessus. Hein. Rien que pour m'énerver parfois.
Ben écoute, merci beaucoup, Emily, de nous avoir partagé tes connaissances autour de la bière. Donc, on peut les trouver surtout en Normandie.
Oui.
Mais moi, je vais te mettre en relation avec les quelques restaurants britanniques que j'ai trouvés en France. Je suis sûre qu'ils seraient très contents de servir une bière britannique dans leur établissement. Donc, je mettrai ça sur le site de la crème anglaise. Et n'oublie pas qu'on peut aussi visiter et déguster la bière directement sur place en Normandie.
Oui, exact. Plutôt sur rendez-vous.
D'accord, mais on mettra le numéro de téléphone.
Ok, super. Eh bien, je remercie beaucoup, Sarah.
Merci, Emeline. Merci d'avoir écouté La Crème Anglaise. Vous trouverez tous les épisodes sur le site web lacrèmeanglaise.eu ou sur Spotify, Deezer, Apple, Google et vos plateformes de podcast habituelles. À très bientôt pour un nouvel épisode. Cheers and see you soon.